Olivia Giscard d'Estaing, bonjour.
Bonjour
Vous
Didier.
êtes conseiller en allocation d'actifs d'Opti Gestion. On va parler avec vous de marché et de perspectives un peu sur ces marchés. Quel regard vous portez? On a eu des craintes en fin d'année dernière. À nouveau, on pourrait dire que les investisseurs ont l'air de voir que tout va mieux. On a un peu quand même plus de volatilité depuis quelques mois. Comment voyez-vous ce marché?
Alors, j'aimerais simplement regarder un petit peu au niveau d'abord macroéconomique ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on voit finalement que la croissance américaine a tenu. On dit que si jamais il n'y a pas d'accident jusqu'en juillet 2019, ce sera 10 années de croissance ininterrompue. C'est la plus longue croissance historique sans récession du PIB américain. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup, est-ce que l'économie américaine risque de ralentir ou tomber en récession? Le mot récession tombe dans les recherches Google, on voit partout récession. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir les derniers chiffres aux États-Unis. Tout va bien. On n'a franchement pas l'impression que le marché de l'emploi reste très intéressant. Enfin, je veux dire, il y a 300 000, mais en gros, il crée 280 000 emplois par mois. C'est quand même énorme. Taux de chômage est à 4. L'inflation, au contraire, les derniers chiffres étaient plutôt bons parce que le pétrole avait chuté. Donc, on est vraiment dans. Et les taux d'intérêt se sont stabilisés, ont même reculé. Donc, on se dit, on est dans le meilleur des mondes. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de très intrigant, c'est que M. Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, nous dit en 6 semaines, nous envoie un discours radicalement différent. Il disait, donc c'était en novembre 2018, je crois, ou novembre ou décembre, je ne me souviens plus. Il nous dit, oui, bon, ben voilà, je vais normaliser, puisque la situation économique aux États-Unis est parfaite, je vais normaliser ma politique monétaire. Tout le monde sait on est passé de 870 milliards de dollars à 4 400 ou 500 milliards de dollars de balance, enfin de bilan de la Banque centrale américaine. On va commencer à le réduire, 50 milliards de dollars par mois, tout va bien, et puis on va commencer à normaliser les taux, et donc on remonte nos taux. Donc tout ça paraît tout à fait normal. Puis tout d'un coup, 6 semaines après, il vous dit, oh là là, non, 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 j'arrête tout, pause dans la hausse des taux, et je remets en cause, en fait, la diminution du bilan. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se passe.
Ce qu'il y a eu, c'est quand même, entre-temps, il y a eu des tweets de Donald Trump, effectivement,
Ouais.
enjoignant la Fed de revoir sa
Non, non, mais
politique.
moi je crois pas à ça. Moi, je crois que c'est. Bon, les tweets de Donald Trump, on commence à être habitué, mais je ne crois pas que ce soit ça le vrai enjeu de ce qui s'est passé. Pas du tout. Moi, je pense, d'ailleurs, dans le dernier discours, pour justifier qu'il y avait une pause dans la politique monétaire, il a invoqué la croissance mondiale qui était en net ralentissement. Il a évoqué aussi bon, l'enjeu commercial de la guerre commerciale qui pouvait être problématique pour la croissance. Et puis, des conditions financières qui commençaient aux États-Unis à devenir un petit peu contraignantes. Et ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, dans le monde économique d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre avec des taux réels supérieurs à ceux d'aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargnant est complètement rincé. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous avez du 0,10 d'emprunt d'État à 10 ans. C'est-à-dire que votre épargne, elle n'est pas rémunérée. Et donc, vous êtes obligé de mettre votre argent dans des actions avec une volatilité qui va être très forte. Parce que des actions, c'est quoi? C'est des taux d'intérêt et des résultats. Bon, les taux d'intérêt, on se dit, vu l'endettement mondial, ils ne vont pas pouvoir beaucoup monter, parce que dès qu'on essaye, c'est la catastrophe. Sauf que les résultats d'entreprise, c'est du chiffre d'affaires. Et
Un risque.
les économies, ben c'est un risque. Alors, sur le long terme, on dit toujours, c'est bien, etc. Sauf que nous, quand on voit nos clients, le long terme, en fait, malheureusement, ce sont pour les institutionnels. Pour les particuliers, l'horizon, il est quand même 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est un vrai problème, cette volatilité. Parce que quand vous avez peur, vous regardez les cours de bourse, etc., vous vous dites, bon, ben, non, moi, il y a quand même une baisse de 20% en fin d'année,
Oui, ça a été assez significatif.
qui n'était pas du tout anticipée. On pensait effectivement que les marchés étaient un peu chers, etc., surtout aux États-Unis. Mais de là à justifier une baisse de 20%, ce n'était pas justifié. Donc ça crée un vrai problème. Et je pense qu'on est dans cet univers où finalement, le fait que les dettes d'État soient tellement importantes dans le monde, elles absorbent l'épargne aux dépens, en fait, de l'économie réelle qui, à mon avis, on aurait plus besoin.
Donc on a vu effectivement des prises de risque sur, en allant un peu plus sur les actions. On a vu aussi des arbitrages peut-être vers l'immobilier. Donc on a vu effectivement les épargnants et les investisseurs particuliers essayer de naviguer dans cet univers-là, qui finalement demeure, parce que là on disait souvent, et les banques centraux, période de taux bas particulièrement longue, là ça va être très
Oui, mais
longue,
alors
parce que la
justement,
baisse de
maintenant, il
taux
y a un débat
c'est...
en disant, bah, finalement, on peut s'endetter à l'infini. Bon, il y a quand même un
Oui, on a vu aux
problème.
États-Unis.
Oui, là, récemment, donc le chef économiste, l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, justifie que ce n'est pas un problème, puisqu'effectivement, la croissance nominale du PIB est supérieure au taux d'intérêt pour financer la dette. Bon, d'accord, mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire que finalement, la croissance économique n'est pas très forte. Compte tenu de tout cet environnement de liquidité abondante qu'on a, pourquoi on n'a pas des taux de croissance plus forts? Donc il y a une limite quand même à l'endettement. Et à la fin, bah, des entreprises, c'est un chiffre d'affaires, des emplois, c'est une croissance économique. Et donc en ce moment, on voit quand même en Europe et aussi en Chine un net ralentissement de la croissance économique. Donc ça
On
veut
a eu
dire
des
que.
inquiétudes en Allemagne, on dit que l'Allemagne va peut-être être en
Ouais.
récession, il y
Ouais,
a
on a
donc
évité de peu, puisque on était à zéro en fin d'année dernière. Et donc, je pense qu'on voit bien que ça n'est pas aussi sain que ça a l'air. C'est pour ça qu'il y a dès que les taux se tendent, on se dit ça va craquer.
Oui, parce qu'on a souvent dit, on a reproché en tout cas aux banques centrales, on a dit, voilà, vous avez mis cet argent, bon, vous avez sauvé entre guillemets le marché, la bourse, mais derrière l'économie réelle, ça passe cette croissance terrible. Et puis, maintenant que vous avez fait ça, vous n'avez plus pas forcément de munitions pour effectivement relancer l'économie, quoi. Finalement, 10 ans après, on n'arrive pas à
Exactement.
repartir.
Non, non, non. Sauf aux États-Unis, où effectivement ils ont baissé les impôts, etc. Mais alors aux États-Unis, ils ont creusé les déficits. C'est-à-dire on a un déficit budgétaire de 6%. La dette, il faut savoir que la dette aux États-Unis, c'est à peu près 1 300 milliards de dollars chaque année en plus. Donc on est déjà à 22 trillions. Donc bon, il y a quand même après les générations futures. Enfin, il y a bien un moment où alors on ne rembourse pas les dettes et la monnaie ne vaut plus rien. Donc à ce moment-là, il y a une dépréciation par rapport à. Enfin voilà, la monnaie, c'est quand même l'offre et la demande. Donc moi, je crois qu'il y a un problème. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a 9 000 milliards de dollars de dettes dans le monde qui sont à des taux négatifs. Ça veut dire qu'en fait, on vous paye pour vous prêter de l'argent. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est pas normal.
Donc il y a cette sortie. Alors après, les plus pessimistes disent, quand on voit ce type de crise financière, finalement ça a rejoint celle historique de 29. On se dit à la fin, ça s'est terminé par une guerre. Donc quand on est très pessimiste, on se dit, quel moyen de sortir de ce type de crise?
Bah, déjà, le moyen de sortir de cette crise, c'est d'être plus efficace dans cette allocation d'épargne. Moi, je crois que ce ne sont pas forcément les États qui sont les plus efficaces pour dépenser l'argent. Donc, je crois qu'il faut surtout alimenter les entreprises. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas rêver. C'est-à-dire que la croissance, c'est quoi? C'est la population active et la productivité. Bon, dans nos pays, effectivement, la démographie, c'est important. On a des pays, regardez le Japon a plus de croissance depuis longtemps. Bon, nous, en Europe, je pense qu'il faut avoir ces politiques visionnaire d'encourager la démographie, d'encourager la population active à travailler. Donc il faut augmenter la taille de la population active. Et donc il y a des mesures structurelles pour tout ça. Il faut former les gens. Vous savez que même aux États-Unis, c'est amusant, il y a 5 millions de personnes qui ne sont pas inscrites au chômage, mais qui recherchent de l'emploi. Et en face, vous avez 7 millions de postes qui ne sont pas pourvus. Donc vous voyez, il y a des choses qui ne matchent pas. Et en France, on le connaît, et en Europe, c'est pareil. Donc il y a, je pense, des réserves de croissance qu'on n'utilise pas. Mais malheureusement, c'est structurel. Et là, finalement, on a colmaté les brèches. On part au plus pressé. On s'endette pour surtout sauver les choses et éviter une dépression. Mais ce qui est dommage, c'est que finalement, dans les phases de croissance qu'on a, on ne fait pas l'effort d'allouer l'épargne vers quelque chose de plus productif. Et alors, le problème de l'Europe aussi, là, ce qu'on regrette, c'est que toute cette vague technologique, elle nous passe un peu à côté.
Oui.
Et là, il y a un vrai enjeu de recapturer une partie de la valeur que l'on donne on en parlait tout à l'heure, à ces plateformes qui sont donc Facebook, Amazon, enfin les GAFA, Google. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu.
Oui, parce qu'on a souvent parlé de technologie et de que la technologie allait amener de la croissance. Pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que la croissance n'est pas forcément au rendez-vous avec toute cette vague technologique.
Ben, la technologie, surtout, en fait, elle a, à mon avis, emmené, entre guillemets, un peu de déflation. Oui. C'est-à-dire que vous aviez eu la Chine qui, avant, avait entraîné la déflation. En fait, je pense que la technologie, on a l'impression que tout est gratuit. Mais c'est une impression qui est fausse. Derrière, vous avez des gens qui travaillent, etc. C'est pour ça que les salaires, peut-être, n'augmentent pas. En plus, il y a ce problème, je pense, qui va être important, c'est le problème de puissance de ces GAFA, quand même. Parce qu'on avait connu les monopoles pétroliers quand il y avait le Standard Oil à l'époque, qui a été cassé. Par les États-Unis. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience qu'il faut faire attention de redistribuer en fait cette valeur ajoutée qui est créée par les gens qui la donnent gratuitement en fait. Et je crois que ça, c'est un des grands enjeux des années prochaines. Et je pense que c'est très important.
Merci beaucoup, Olivia Giscard d'Estaing, d'avoir été avec nous.